Et nous retrouvons Marion pour une nouvelle chronique culture par chez nous. Marion, bonjour.
Salut Rodolphe.
Chaque mercredi de l'été, Haute-Corrèze Communauté et Radio Vassivière vous font découvrir des trésors de notre territoire. Des sites, des événements, des associations ou des initiatives culturelles qui font vibrer la Haute-Corrèze et que nous souhaitons partager avec vous. Pour cette nouvelle chronique culture par chez nous, Marion, tu as suivi Zoé Dupeux à la découverte du patrimoine du pays des Hautes Terres corrézienne et de Ventadour.
N'as-tu jamais remarqué, Rodolphe, comme l'on arrête parfois d'observer vraiment ce qui nous entoure tous les jours ? Peu à peu, notre rue, notre bourg, la rue qui mène au bureau, intègrent notre quotidien et perdent un peu de leur magie des débuts, presque comme si on ne les voyait plus. Cette fontaine a toujours été là, mais jamais nous ne nous sommes demandé pourquoi. Ce bâtiment semble bien plus vieux que les autres, mais nous n'avons jamais cherché à connaître son histoire. Cet été, c'est le moment ou jamais, on prend le temps de se poser et de porter un regard neuf sur ces édifices et ces paysages qui nous entourent, si familiers et peut-être finalement si étrangers. À la suite de Zoé Dupeux, on part à la redécouverte de notre cadre de vie. Zoé Dupeux est arrivée il y a 5 mois sur le territoire. Elle est l'animatrice de l'architecture et du patrimoine du pays d'art et d'histoire des Hautes Terres corréziennes et de Ventadour. Elle s'occupe de la valorisation du patrimoine architectural et du cadre de vie de 52 communes, de Mérignac-l'Église à Saint-Étienne-au-Clos et de Mémac à Soursac.
Oh là oh là, attends un peu Marion, pas trop vite, peux-tu préciser ce qu'est un pays d'art et d'histoire ?
Pas de souci, Zoé m'a tout expliqué. Pays d'art et d'histoire est un label national. Pour être pays d'art et d'histoire, il faut déposer un énorme dossier de candidature auprès du ministère de la Culture. On y explique l'identité du territoire, la richesse de son héritage culturel et la manière dont on a envie de le partager et de le transmettre. Si le dossier est retenu, une convention entre le territoire et le ministère de la Culture est passée pour 10 ans. Cette convention permet au territoire labellisé de recruter un animateur du patrimoine ainsi qu'une équipe de médiateurs, plus ou moins grande, pour l'accompagner dans ses missions de valorisation du patrimoine. Et quelles sont précisément ces missions de valorisation ? Zoé m'a tout détaillé.
La valorisation, elle se fait par différents moyens. Ça peut être en premier de l'animation du patrimoine. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des animations et que les animateurs soient présents sur le territoire. Donc ça peut être des visites guidées, des conférences, des projections. Ça peut être différentes animations et aussi des ateliers pour les enfants. Des publications, des petits livrets de visite sur le patrimoine. Également des expositions ou encore soutenir des communes qui souhaitent monter des projets de valorisation. Et également, le Pays d'art et d'histoire a un rôle d'expert du patrimoine sur le territoire et il travaille en collaboration avec des acteurs comme la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, les architectes des bâtiments de France et peut également travailler avec des particuliers ou sur l'urbanisme.
Pour réaliser tout cela, le Pays d'art et d'histoire ne travaille pas tout seul dans son coin.
On essaye en fait de travailler avec beaucoup de partenaires du territoire pour créer des visites couplées ou faire des visites pour des partenaires s'ils le souhaitent.
Le Pays d'art et d'histoire est en interaction constante avec de nombreux acteurs du territoire. Toute l'année, Zoé et son équipe travaillent avec les écoles et les centres de loisirs. Tant scolaires ou périscolaires, projets qui se construisent sur une année ou demandes plus ponctuelles pour une visite... Les formes sont variées. À chaque sollicitation, les animateurs du patrimoine réinventent la manière dont ils vont aborder le patrimoine avec les enfants qu'ils viennent retrouver, selon le thème choisi, l'âge des enfants et la durée de l'animation.
Ça peut être des ateliers de création artistique ou alors des ateliers de découverte de l'architecture et du patrimoine. On peut faire par exemple une petite visite de l'église, leur expliquer ce que c'est des vitraux et les différentes typologies d'architecture rapidement, simplement. Et ensuite, on peut travailler sur des vitraux, la création de vitraux ou alors des maquettes d'architecture pour leur faire comprendre ce que c'est qu'un, par exemple, un arc brisé ou un arc en plein cintre. On a également des planchettes en bois capla pour les faire travailler sur l'architecture.
Mais Marion, le pays d'art et d'histoire ne s'adresse pas qu'aux scolaires ou aux périscolaires.
Bien sûr que non. Chaque année, le pays d'art et d'histoire propose au grand public 3 programmes d'animation. Les rendez-vous du printemps, les rendez-vous de l'été et les rendez-vous de l'automne. Là encore, pour élaborer ces propositions d'animation, Zoé et son équipe vont chercher les acteurs du territoire. les musées pour proposer de grands jeux de pistes autour du patrimoine, le parc naturel régional de Millevaches et le centre permanent des initiatives pour l'environnement du Limousin pour proposer des sorties découvertes du patrimoine naturel, EDF et l'HM pour proposer l'exploration des barrages de la Dordogne et bien sûr les offices de tourisme qui se font notamment le relais de toutes ces propositions d'animation. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Le premier public que cherche à toucher Zoé, ce ne sont pas les touristes. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord de s'adresser aux personnes qui vivent au quotidien sur ce territoire, les grands comme les petits. Elle aime partir de leur cadre de vie pour le décrypter avec eux. Elle aime relever le défi de nous intéresser à ce qu'on ne remarque plus.
Leur parler de là où ils habitent vraiment. Donc par exemple, les vendredis découvertes ont un très gros succès parce que c'est vraiment les habitants de la commune de 200 habitants qui viennent visiter le bourg parce que ça les intéresse tout simplement. Je pense qu'ici, les gens sont vraiment attachés au lieu où ils habitent.
Et c'est aussi vrai pour les enfants.
Quand on travaille avec eux à l'extérieur, ça peut être dans leur quartier, dans le quartier de leur école, c'est sur les... C'est parce que l'architecture ancienne et le patrimoine ancien, c'est intéressant, mais il y a aussi le cadre de vie, qui est quand même un sujet des villes et pays d'arrêt d'histoire, qu'on travaille avec eux dans l'environnement qu'ils connaissent.
Zoé aime inviter ses visiteurs curieux, petits ou grands, à observer comment leur cadre de vie est le fruit d'une évolution qui se poursuit encore aujourd'hui, comment s'y mêlent les époques, du petit patrimoine de granit,
qui est moins visible, qui est plutôt dans les petits bourgs ou dans les hameaux carrément, qui reflète la vie des habitants de Haute-Corrèze.
En passant par le patrimoine industriel.
Avec les barrages, les chemins de fer, notamment avec le transcorrézien.
Et les cimetières.
Il y a des histoires de personnages connus dans la commune, donc la tombe d'une personne connue, donc là ça permet de parler de son histoire. Mais il y a aussi plein d'éléments d'art funéraire. La forme du tombeau, les dessins, les représentations et les plaques en porcelaine de Limoges qui sont ici spécifiques à la région.
Jusqu'à aujourd'hui.
Le patrimoine 20e et le patrimoine du 21e siècle et notamment notre cadre de vie pour réfléchir sur les questions d'urbanisme et d'évolution du territoire à partir du patrimoine.
Le mieux pour saisir cet enchevêtrement des époques dans votre quotidien, c'est encore de suivre Zoé dans ses visites de bourgs, de villages et de villes. Il est presque 21h. Nous avons rendez-vous sur la place du centre-bourg de Meymac. Le soleil est encore haut dans le ciel, mais un petit vent se fait sentir, doux frisson de fin de journée. On remonte la rue pavée de granit, le clocher qui domine la place surveille notre ascension. Passage devant la terrasse d'un café. Nous voilà arrivés. Distribution des lampions qui vont nous guider. À leur lueur, la visite commence.
Alors on allume les lampions. Meymac s'est développé à partir du XIe siècle autour d'une abbaye fondée à Meymac, donc par les vicomtes de Combourne et ensuite soutenue par les vicomtes de Ventadour. Autour de l'abbaye se sont développés les premiers bâtiments abbatiaux et la première ville primitive entourée de remparts. Les remparts ont été rapidement abandonnés au XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, c'est le début du développement des villes partout en France. Et à partir du XVIIIe et pendant tout le XIXe siècle, la ville de Meymac va complètement changer de physionomie. Et ce qui est intéressant ici, place de l'église, c'est qu'on peut voir autant cette église du XIIe siècle que les bâtiments abbatiaux également du XIIe siècle, enfin construits au départ au XIIe siècle, qu'une maison des marchands de vin et que l'hospice du XVIIIe siècle. On est face à la façade principale de l'église abbatiale dédiée à Saint-André et à Saint-Léger. On remarque tout de suite le portail monumental, donc la porte principale qui est au centre et qui était la seule porte au Moyen-Âge. Les deux ouvertures sur les côtés ont été faites au XVIIe siècle. Ce que je trouve vraiment très joli, c'est cette arcade à cinq lobes, donc on dit un arc polylobé, qui me fait beaucoup penser à l'architecture d'Al-Andalus, à l'architecture musulmane. On est devant le beffroi, qui est en fait une ancienne tour de défense des remparts médiévaux, qui a été transformée en beffroi, avec un toit et un clocheton, et une horloge qui sonne les heures et qui change complètement le rythme de vie des habitants, qui étaient habitués au son des cloches des offices religieux et qui maintenant s'habituent au son des cloches des heures.
Prise au jeu de la quête d'indices pour remonter l'histoire, on trouve deux initiales inscrites dans la pierre.
Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est particulièrement intéressant. Moi, j'aime bien découvrir les petits détails comme ça qu'on remarque pas forcément au premier regard. Je passe là tous les jours, mais tu vois, je l'avais jamais vu. Après, les pierres datées, faut toujours se méfier parce que ça veut pas toujours dire la vérité. Quand on voit une ville comme Emac qui est quand même assez bien conservée, on a l'impression que ça a toujours été comme ça, alors qu'en fait, non. Ça permet vraiment de comprendre l'évolution de la ville et de se rendre compte que les choses changent et que peut-être que 200 ans, ça sera plus du tout non plus comme ça.
C'est ainsi, en suivant Zoé et ses lampions pour réaliser cette chronique, que j'ai découvert que mon petit bourg de Mémac, que j'imaginais dans son jus depuis le Moyen-Âge, était en fait le fruit de nombreux remaniements au fil des ans et qu'il n'a cessé d'être évolutif et vivant, prêt à s'adapter à la vie de ses habitants. Si vous êtes prêt à suivre Zoé pour découvrir les histoires que nous murmurent ces pierres que nous côtoyons tous les jours sans trouver le temps de les écouter, à vos agendas, voici le programme de l'été. Pour partir explorer les rues des quatre bonnes villes de notre territoire, Neuvic, Mémac, Ussel ou Égletton, vous pouvez choisir vos dates en juillet ou en août et vos horaires. En pleine journée si vous êtes plutôt lunettes de soleil, ou à la tombée de la nuit si vous êtes plutôt lumière des lampions. Dans les deux cas, vous attend un voyage en aller-retour entre Moyen-Âge et 21e siècle. Des visites du prieuré de Saint-Angèle, du château de Ventadour et du moulin de Valliergues sont aussi au menu. Au total, plus d'une trentaine de visites vous sont ainsi proposées du 1er juillet au 31 août. Un peu en dehors des sentiers battus, les vendredis, à 16h30 ou à 18h, vous avez rendez-vous pour la découverte inédite d'un bourg du territoire. Ce sont les visites dont Zoé nous a parlé, celles qui font fureur auprès des habitants des bourgs dans lesquels elles ont lieu. Au programme cet été, Saint-Sulpice-les-Bois le 17 juillet, Chaumeil le 24 juillet, Saint-Pantaléon-de-Laplau le 31 juillet, Saint-Fréjus le 7 août, Saint-Étienne-au-Clos le 14 août, Courté le 21 août et La Fâche-sur-Sombre le 28 août. Nos jeunes graines d'explorateurs ne sont pas oubliées dans ce beau programme. Elles aussi sont invitées à redécouvrir l'univers bâti qui les entoure sous un nouveau jour. Jeux de piste à Ussel le 14 juillet, jeux de piste autour du barrage de Marèges le 20 juillet et le 7 août, jeux de piste à Laplau le 21 juillet, jeux de piste au prieuré de Saint-Angèle le 28 juillet, jeux de piste avec les marchands de vin de Mémac le 18 août, enquête à Saint-Pantaléon-de-Laplau le 26 juillet et après-midi en compte à Saint-Hilaire-Luc le 15 août. Voilà toute la famille emportée dans l'aventure, ouvrant grand les yeux et les oreilles pour ne laisser passer aucun indice. Et pour partir à la découverte du château de Ventadour, ateliers, visites guidées, contées et insolites, chasse au trésor ou enquêtes archéologiques vous sont proposés tout l'été.
Non mais attends un petit peu là, tu penses sérieusement qu'on a eu le temps de tout noter ?
Évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez retrouver le détail du programme des animations de cet été sur le site internet du PAH, Pays d'Art et d'Histoire, Corrèze-Ventadour, dans la rubrique Agenda. Ou sur la page Facebook du PAH, Haute-Terre Corrézienne et Ventadour. Petite consigne que Zoé m'a demandé de vous faire passer. Pensez à bien réserver votre animation au 05 19 60 00 30. Et prenez avec vous votre masque, il est pour l'instant obligatoire pour suivre les animations. Alors, au plaisir de vous retrouver au détour d'une rue, émerveillé devant une petite sculpture dans le coin d'une porte que l'on n'avait jamais remarquée avant.
Marion, on va pas se quitter comme ça. Et la chanson finale pour clôturer cette chronique en compagnie de Zoé sur le pays d'arrêt d'histoire.
C'est une histoire de lunettes qui tout d'un coup change le regard que l'on porte sur ce que l'on voyait pourtant tous les jours.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique, le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, 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 aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle elle décède, que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes, aïe, 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 aïe. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié, aïe, 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 aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa, gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. La vie est très bien faite, il suffit de si peu, d'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.